rédigé sous l'autorité de Colbert et promulgué par Louis XIV en 1685, le Code noir réglemente l'esclavage aux Antilles. Les hommes et les femmes y sont considérés comme des meubles. Le Code noir. Édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique. Mars 1685, à Versailles. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Préambule. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels, ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et, désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. À ces causes, de l'avis de notre conseil et de certaines sciences pleines de puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui suit. Article 1. Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1616, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, ordonnons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles dans 8 aînes au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lesquelles nous déclarons les assemblées illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 4. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des 10 nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction. Article 5. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Article 6. Ordonnons à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'il soit, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine, leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs esclaves aux 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amendes et de punitions arbitraires contre les maîtres, et de confiscation tant des 10 sucres que des 10 esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail. Article 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et toutes marchandises les 10 jours, sur peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et à une amende arbitraire contre les marchands. Article 8. Déclarant nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable, déclarons bâtards tous les enfants qui naîtront de telles liaisons, que nous voulons être tenus et réputés, tenons et considérons comme vrai concubinage. Article 9. Les hommes libres, qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leurs esclaves, ensemble, les maîtres qui les auront souffert seront chacun condamnés à une amende de 2000 livres de sucre. Et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront les 10 enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, si l'homme libre n'est pas marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église, sa dite esclave sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes. Article 10. Les dites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Article 11. Défendons très expressément au curé de procéder au mariage des esclaves s'ils ne font pas apparaître le consentement de leur maître. Défendons aussi au maître d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Article 14. Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. À l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés dans quelque champ voisin du lieu où ils sont décédés. Article 15. Défendons aux esclaves de porter une arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes, au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues. Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés. À peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys. Et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, ils pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Ordonnons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait entre eux aucun décret. Article 17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d'autres esclaves que ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leur propre nom de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion des dites assemblées, et en 10 écus d'amende pour la première fois, et au double en cas de récidive. Article 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine de fouet contre les esclaves, et 10 livres tournois contre leur maître qui leur ont permis, et de pareille amende contre l'acheteur. Article 19. Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrée, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leur manufacture, sans permission expresse de leur maître, par un billet ou des marques connues. À peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leur maître, et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs. Article 20. Voulons, à cet effet, que 2 personnes soient préposées par nos officiers dans chacun des marchés pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves. Ensemble, les billets et marques de leur maître dont ils seront porteurs. Article 21. Permettons à tous nos sujets, habitants de nos îles, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leur maître ni de marques connues, pour être rendus incessamment à leur maître. Si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit, sinon, elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. Article 22. Les maîtres seront tenus de fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de 10 ans et dessus, pour leur nourriture, 2 pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou 3 cassaves, galettes de farine de manioc, pesant chacune 2 livres, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion. Et, aux enfants depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans, la moitié des vivres ci-dessus. Article 23. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive pour tenir lieu de la substance mentionnée en l'article précédent. Article 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier. Article 25. Les maîtres seront tenus de fournir à chaque esclave, par chacun an, 2 habits de toile ou 4 aunes de toile au gré des 10 maîtres. Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par les maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ses présentes, pourront en donner l'avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels, et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs. Les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Article 27. Les esclaves infirmés par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître. En cas qu'ils les eussent abandonnés, les 10 esclaves seront adjugés à l'hôpital et les maîtres seront condamnés à payer 6 sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chaque esclave. Article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui vient par l'industrie ou par la liberté d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous les autres esclaves ne puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs, ou à cause de la mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables de disposer et de contacter de leur chef. Article 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés. Et, en cas que leurs maîtres n'aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit. Et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule des 10 esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir, on sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence, ce qui pourra leur en être dû. Sinon, que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic, à part sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol, la livre, avec leurs autres créateurs. Article 30. Ne pourront les esclaves être pourvus d'office, ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autre que leur maître pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitre, expert ou témoin, tant en matière civile que criminelle, et, en cas qu'ils soient entendus en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoire pour aider les juges à s'éclaircir ailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni élément de preuve. Article 31. Les esclaves ne pourront aussi être partis, ni être en jugement, ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être partie civile en matière criminelle, sauf à leur maître d'agir et de défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves. Article 32. Les esclaves pourront être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité. Et seront les 10 esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Article 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort le cas échéant. Article 35. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, juments, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines corporelles et même de mort si le cas le requiert. Article 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves seront punis, selon la quantité du vol, par les juges qui pourront, le cas échéant, les condamner à être battus de verge par l'exécuteur de la haute justice, et même marqués d'une fleur de lys. Article 37. Les maîtres seront tenus, en cas de vol ou d'autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait. Ce qu'ils seront tenus d'opter dans les 3 jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils seront déchus. Article 38. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et, s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Article 39. Les affranchis qui auront donné asile dans leur maison aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leur maître en l'amende de 300 livres de sucre pour chaque jour de rétention. Et les autres personnes libres qui leur auront donné pareil asile à 10 livres tournois d'amende pour chaque jour de rétention. Article 40. L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par 2 principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation sera payé au maître. Il sera imposé par l'intendant sur chaque tête des nègres payant droit la somme portée par l'estimation, laquelle sera réclamée sur chacun des 10 nègres et recueillie par le fermier du domaine royal d'Occident pour éviter les frais. Article 41. Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion. Article 42. Les maîtres pourront seulement, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d'agir contre les maîtres extraordinairement. Article 43. Ordonnons à nos officiers de poursuivre les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances. Et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettrons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce. Article 44. Déclarons les esclaves être des meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans précipute, ni droit d'aînesse, ni être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignagiers, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4/5 en cas de disposition à cause de mort testamentaire. Article 45. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leur personne et aux leurs, de leur côté et ligne, ainsi qu'ils se pratiquent pour les sommes de deniers et autres choses mobilaires. Article 46. Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies ou en cas de déconfiture au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobilières, aux exceptions suivantes. Article 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître. Déclarons nuls les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient des aliénations d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix. Article 48. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de 14 ans et au-dessus, jusqu'à 60 ans, être saisis pour dette, sinon pour ce qui sera dû au prix de leur achat, ou que la sucrerie ou indigoterie ou habitation dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement. Défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement. Article 49. Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations saisies réellement, conjointement avec les esclaves, seront tenus de payer le prix entier de leur bail, sans qu'ils puissent compter parmi les fruits qu'ils percevront les enfants nés des esclaves pendant le bail. Article 50. Voulons, nonobstant toute convention contraire que nous déclarons nulle, que les 10 appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire s'il intervient un décret. Et, à cet effet, mention sera faite, dans la dernière affiche avant l'interposition du décret, de 10 nés des esclaves depuis la saisie réelle. Que, dans la même affiche, il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris. Article 51. Voulons, pour éviter des frais et des longueurs de procédure, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves. Article 52. Et néanmoins, des droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds. Article 53. Ne seront reçus les individus du même lignage et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudications à retenir les esclaves sans les fonds. Article 54. Ordonnons aux gardiens, nobles et bourgeois, usufruitiers locataires d'une terre et autres jouissants de fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus après leur administration, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruit à leur profit les enfants nés d'esclaves durant leur administration. Lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et les propriétaires. Article 55. Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tous les actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de 25 ans. Article 56. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leur maître, ou nommés exécuteurs de leur testament, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés pour affranchis. Article 57. Déclarons leur affranchissement fait dans nos îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terre et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Article 58. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de tous autres charges, services et droits utiles que leur ancien maître voudrait prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions, en qualité de patron. Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leur bien, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. Article 60. Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir pour être payées à ceux qui se sont préposés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que le prélèvement soit du fait du tiers des dites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées. Si donnons l'ordre à nos aimés et loyaux gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présents ils aient à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles gardé et observé de point en point, selon leur forme et teneur, sans contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu, en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présences, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.